terme de notre série de cours sur les souterrains. Et vous vous souvenez qu'on a exploré un certain nombre d'aspects du thème, de dimensions du thème, psychologique, sociale, politique, narrative aussi. Et on a aussi étudié un certain nombre d'intertextes dans lesquels nos romans sont pris et avec lesquels ils communiquent. Avec lesquels ils communiquent. Alors, des intertextes scientifiques, des intertextes littéraires, des intertextes plus vagues qui font partie du discours social, du discours ambiant d'une époque. Parmi les intertextes littéraires, on a vu notamment l'importance de certains genres qui instituent un certain nombre de stéréotypes. Alors aujourd'hui, je n'ai pas ajouté encore un intertexte ou une dimension au sujet, mais d'une certaine manière, je voudrais prolonger ce qu'on a dit à la fois sur l'aspect scientifique d'une part et sur l'aspect social du thème d'autre part, en essayant de voir comment le souterrain, c'est-à-dire qui est d'abord un thème spatial dans les romans, y est généralement, souvent, tendanciellement, ça ne veut pas dire à chaque fois, y est généralement transformé en une image non pas spatiale mais temporelle. Temporel parce que spatial. Alors j'organiserai mon propos aujourd'hui en deux temps. Le premier concernera le souterrain comme image du passé. Et donc le deuxième temps, de manière un peu inévitable, sera sur le souterrain comme image du futur. On pourra voir que les deux dimensions coexistent et même dans une certaine mesure se mêlent. Alors je commence en parlant du souterrain comme image du passé et j'essaye d'expliquer pourquoi et comment cela se produit. Il me semble qu'on peut discerner deux modèles par lesquels l'espace devient du temps dans nos romans. C'est d'une part ces deux modèles scientifiques, hein, donc ça prolonge ce que nous avons dit sur la science. Ce sont deux modèles scientifiques. Le premier c'est le modèle géologique, le deuxième c'est le modèle archéologique. Et là encore, souvent ils ne sont pas convoqués indépendamment l'un de l'autre. En fait, ils se croisent et très souvent s'appellent mutuellement. Alors je commencerai par ce modèle géologique pour essayer de clarifier un peu ce qu'on entend par là. Évidemment, là, la référence qui s'impose, c'est celle de voyage au centre de la Terre. Avant même de parler de géologie, il est remarquable que le roman s'ouvre déjà sur l'idée que aller dans le souterrain, c'est aller dans le passé. Notamment, vous vous souvenez que la quête de Lidenbrock et d'Axel dans le voyage au centre de la Terre n'est pas une quête nouvelle. C'est étrange puisque on s'attend dans des voyages extraordinaires, comme les appelle Jules Verne, des voyages dans les mondes connus et inconnus, comme il les appelle aussi. Bon, dans un voyage extraordinaire dans un monde inconnu, on s'attend à ce que le voyage soit présenté comme une totale nouveauté, comme une découverte. Et Axel et Lidenbrock ont une posture, une attitude d'explorateur, qui découvre des nouvelles terres. Mais ce qui les lance sur ce trajet, vous vous souvenez que c'est un message venu du passé. C'est ce message de cet alchimiste je ne sais plus de quelle époque, du 16e siècle, je crois, Arne Saknussemm, qui laisse un message expliquant qu'il est allé dans le souterrain qui mène au centre de la Terre et qu'il a vu le centre de la Terre. Et une fois tout au fond de leur voyage, à l'endroit le plus profond de leur voyage, Lidenbrock et Axel trouvent sur un mur, sur une muraille de roche, une inscription qui est les initiales de Arne Saknussemm, qui prouve qu'il est passé là. C'est bien que, en fait, Lidenbrock et Axel ne font que refaire un voyage déjà fait. En fait, ils entrent dans une répétition de quelque chose de passé. Alors bien sûr, c'est un passé imaginé. Mais il est assez intéressant que Verne ait recours à ce procédé. Pourquoi ne pas nous montrer Axel et Lidenbrock ayant l'idée tout seul d'aller descendre dans un volcan? Pourquoi faut-il qu'il soit précédé par quelqu'un? Et vous voyez que je commençais en parlant d'un modèle géologique. Mais déjà là, il y a une interférence avec un modèle archéologique. On descend dans les profondeurs, et dans les profondeurs, on trouve des inscriptions sur des pierres, laissées par une génération passée. C'est typiquement un geste archéologique d'aller lire et décrypter des inscriptions épigraphiques, des inscriptions dans la pierre. Donc en un sens, Lidenbrock et Axel ne font que retrouver un passé. Alors bien sûr, un passé qui est imaginé, un passé qui est entièrement fictif, auquel nous ne croyons pas non plus en tant que lecteurs, mais qui est là quand même posé comme une sorte de signe de ce que c'est que descendre dans les profondeurs de la Terre. Lorsqu'ils entrent dans le volcan, l'entrée dans le volcan est symboliquement associée au temps. Puisque vous vous souvenez que le cratère, vous vous souvenez, vous verrez dans votre lecture, j'ai tendance à dire vous vous souvenez, vous verrez dans votre lecture, ou vous avez vu dans votre lecture, que le cratère par lequel ils doivent descendre est indiqué par l'ombre d'un pic montagneux. L'ombre d'une montagne qui vient se indiquer comme une flèche l'endroit où l'on doit descendre. À une certaine heure, à une certaine date, le cratère par qui est la bonne entrée est indiqué par cette ombre. Comme dans Indiana Jones ou dans beaucoup d'autres romans d'aventure ou films d'aventure. Mais la manière dont Verne le décrit, c'est cette manière-ci. Je cite, on pouvait en effet considérer ce pic aigu comme le style, c'est-à-dire la pointe, d'un immense cadran solaire dont l'ombre, à un jour donné, marquait le chemin du centre du globe. Bon, et un cadran solaire, évidemment, ça indique un lieu. Le cadran, mais ce lieu signifie un temps. Donc on a quand même un petit indice ici du fait que la plongée dans la Terre est une plongée dans le temps, mais dans le passé. Alors j'en viens à ce modèle géologique à proprement parler. Ici, il faut bien signaler que Jules Verne s'inscrit dans un courant scientifique. Pas en tant que savant, bien sûr, mais en tant que vulgarisateur et rêveur à propos de la science, il s'inscrit dans un courant scientifique précis qui a marqué le développement de la géologie depuis le 19e siècle. Et sa reformulation sur de nouvelles bases. La géologie a changé de manière de poser ces problèmes et de les résoudre. Sous l'influence de Werner en Allemagne, puis de Cuvier en France, elle est devenue une géologie historique. C'est-à-dire que, à partir du 19e siècle, comme d'ailleurs cela se produit dans d'autres domaines scientifiques, c'est un mouvement global de la science au 19e siècle, au 19e siècle, il y a eu un déplacement de cette science vers un paradigme historique, vers une manière historique de poser les problèmes et de les résoudre. En particulier, la géologie auparavant s'intéressait bien sûr à l'histoire du globe, mais elle en proposait des sortes de systèmes de pensée très généraux, tandis que elle s'intéressait énormément à la question de la minéralogie, c'est-à-dire de la description, de la classification des roches et des minerais. De l'identification des roches. Et donc la notion fondamentale était celle de roche. Une roche, c'est un composé de plusieurs minéraux qui présente une certaine stabilité, une certaine identité dans l'espace et dans le temps. Il peut se reconnaître. Le granit est une roche. Je ne m'avance pas trop sur ce terrain parce que je ne suis pas sûr de pouvoir tout à fait être très au point sur la minéralogie, mais vous voyez l'idée. Donc l'idée était d'identifier les roches et d'essayer de comprendre comment elles se transformaient les unes dans les autres éventuellement. À partir du 19e siècle, il y a un déplacement, la notion fondamentale devient celle de terrain ou de formation. L'idée centrale est que on peut distinguer différents terrains, c'est-à-dire différentes couches du sol qui renvoient à des dates de formation différentes et dont la composition minérale n'est pas forcément identique en nature. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des roches différentes dans la même formation, dans le même terrain, dans la même couche historique. Donc la question ne devient plus une question d'identification de la nature, de l'essence de ce que vous décrivez, mais la modélisation d'une succession de couches qui se superposent. Je crois que je n'ai pas besoin d'insister tant que ça sur cette idée, puisqu'elle nous est devenue très familière. C'est-à-dire l'impression que les roches, les montagnes, tous les ensembles géologiques sont formés de strates. Et que ces strates renvoient à des dates différentes. Et cette idée n'était pas complètement inconnue avant non plus, d'ailleurs, puisque ça se voit. Dans certains lieux précis, on peut voir cet empilement, mais il n'était pas forcément interprété en termes historiques, et il ne devenait pas la clé d'explication de l'ensemble des phénomènes géologiques. Bon, donc cette vision stratigraphique devient vraiment l'élément central au XIXe siècle. C'est bien que comme d'autres sciences, comme la plupart des sciences, en fait, au XIXe siècle, la géologie devient une géologie historique. De même que l'étude des langues, la grammaire, est devenue une linguistique historique. À ce moment-là. De même que, en fait, la plupart des sciences se sont reformulées en termes historiques, selon de nouveaux modèles d'enquête. En particulier, un des éléments qui permet cette datation, qui est absolument déterminant dans l'histoire des sciences. C'est tout le travail d'interprétation des fossiles. Notamment réalisé par Cuvier. Qui va utiliser les fossiles pour dater les roches. C'est-à-dire que même si deux roches sont très différentes dans leur composition, si elles contiennent les mêmes fossiles, elles renvoient à une même époque. Je crois que pour nous, c'est à peu près évident. Parce que nous sommes nourris de cette vision à la fois évolutionniste de l'histoire naturelle, de la biologie, et de cette vision stratigraphique de l'empilement des sols. Mais c'est quelque chose qui est un héritage du 19e siècle. Alors, c'est ce qu'on trouve précisément dans Voyage au centre de la Terre, qui est un livre qui popularise cette vision. Et par exemple, lorsque Axel et Lidenbrock et Hans se retrouvent dans cette houillère, dans cette mine de charbon, dans ce gisement de charbon, à un moment, Axel, le narrateur, dit, je cite, « Toute l'histoire de la période houillère était écrite sur ces sombres parois. Et un géologue en pouvait suivre facilement les phases diverses. C'est parce que la géologie devient une géologie historique qu'on peut lire le sous-sol. Que le sous-sol est comme un livre dont on va feuilleter les strates comme des pages. Comme des chapitres. Et donc en traversant la houillère, on ne va pas simplement traverser un lieu, on va en fait se déplacer dans le temps. Donc l'espace devient une trace du temps. Cela sous une forme qui changera par la suite. Et qui sans doute amènera des représentations littéraires un peu différentes, même si je ne l'ai pas étudié encore, on peut imaginer qu'au XXe siècle, il y a une autre révolution dans l'histoire de la géologie qui doit amener des conséquences sur les représentations littéraires. Cette révolution, c'est l'idée de tectonique des plaques. C'est-à-dire l'idée que les roches, les minéraux, les strates, les formations, les terrains ne s'empilent pas simplement dans un ordre donné à la surface du globe, mais qu'ils sont en perpétuel mouvement. Implique, comme vous le savez, la formation des montagnes, hein, par rencontre de plaques et quelques autres phénomènes, notamment les tremblements de terre. Donc, on a une transformation à nouveau au XXe siècle de cette compréhension du sous-sol. Au XXe siècle devient beaucoup moins fixiste. Et maintenant, quand on lit un manuel de géologie, ça commence par les questions de dérive des continents, de mouvement des plaques, de formation des roches à partir de ces du magma, des choses qui, à l'intérieur du manteau, du globe. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. La géologie, maintenant, est une géologie dynamique. que la géologie du 19e siècle est une géologie plutôt statique, quoiqu'elle soit historique. C'est-à-dire qu'elle voit bien une histoire, une succession qu'on peut lire, mais le sous-sol n'est pas le siège de mouvements qui sont encore actifs. Donc, historique, mais pas dynamique. J'imagine qu'aujourd'hui, une descente dans les souterrains serait peut-être un peu plus marquée par les questions de volcanisme, de séisme, de plissement de terrain, etc. Peut-être. Bon, alors c'est ce qui s'apparente à une digression d'histoire des sciences. Mais je crois que cet arrière-plan scientifique explique quand même largement ce que c'est que voyage au centre de la Terre. C'est-à-dire la volonté de représenter spatialement quelque chose qui est d'ordre temporel. Et cela explique qu'il y ait autant d'attention portée à la description des différents terrains dans Voyage au centre de la Terre. Cette description devient de plus en plus une rêverie sur le passé de la Terre. Et cette rêverie débouche sur un espoir de pouvoir, par l'imagination, ressusciter les époques passées de la Terre. Donc on comprend aussi l'intérêt de descendre au centre de la Terre. C'est pas seulement voir un lieu de plus, voir un lieu caché, mais c'est en fait avoir un accès direct à ce que les géologues ne peuvent que conjecturer, à savoir le grand livre de la nature, qui est une sorte de roman de la nature, le roman de l'histoire du globe. C'est pourquoi, à un moment, Axel, devenu inconscient, une fois parcouru tous ces étages de la Terre, peut se plonger dans un grand rêve qui est en fait l'accomplissement de ce modèle géologique, qui est la mise en œuvre de ce modèle géologique. Une fois qu'on a vu l'ensemble des faits observables en descendant dans les couches géologiques, eh bien, on peut mettre en action en quelque sorte cette histoire, la faire vivre, la représenter dramatiquement. Et après les constatations empiriques que fait Axel, une fois qu'il dort, il peut faire une sorte de reconstruction, de reconstitution de l'histoire de la Terre, qui correspond aux hypothèses des géologues. Et c'est ce grand rêve d'Axel dont je vous ai donné le texte à côté. Enfin, à côté de moi, c'est-à-dire sur votre écran. Ah, vous l'avez peut-être pas. Alors en particulier, un des points qui permet... un des points qui permet cette idée d'une reconstitution d'un monde à partir de ces traces, c'est l'idée de fossiles. Il y avait une légende à propos de Cuvier, selon laquelle il était capable de reconstituer un animal à partir d'un seul de ses os. Trouver un os, c'est en fonction de la forme de l'os pouvait l'attribuer à tel ou tel ordre d'animaux, puisqu'il avait fait des études d'anatomie comparée qui lui permettaient de discerner certaines grandes catégories d'animaux et de montrer que les variations d'un membre ou d'un organe entraînaient systémiquement les variations des autres organes. Donc à partir d'un os, on peut idéalement imaginer tout l'animal, reconstituer tout l'animal. Donc le fossile, c'est l'image de cet objet empirique à partir duquel on peut retrouver la vie, retrouver un organisme complet. Et c'est ce que fait Axel dans son rêve. Alors, je vais peut-être pas lire le texte en entier, mais je vais en lire le début et puis ensuite je vais sauter au deuxième paragraphe. Cependant, mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie. Je rêve tout éveillé. Je crois voir à la surface des eaux ces énormes quercites, ces tortues antédiluviennes, semblables à des îlots flottants. Il me semble que sur les grèves assombries passent les grands mammifères des premiers jours, le Leptotherium, trouvé dans les cavernes du Brésil, le Mericotherium, venu des régions glacées de la Sibérie. Plus loin, le pachyderme Lophiodon, ce tapir gigantesque, se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie à l'Anoplotherium, animal étrange qui tient du rhinocéros, du cheval, de l'hippopotame et du chameau. Comme si le Créateur, pressé aux premières heures du monde, eût réuni plusieurs animaux en un seul. Ensuite, ça devient un peu plus violent. Mais je passe au deuxième paragraphe parce que c'est la suite de cette énumération d'animaux. Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l'homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore. Alors donc, vous voyez, on remonte encore dans le passé. Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés. Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés. Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour. Toute la vie de la Terre se résume en moi, et mon cœur est seul à battre dans ce monde dépeuplé. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de climat. La chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux. La végétation s'exagère. Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol. Voilà, je m'arrête là. Puisque la suite, on en avait déjà parlé d'ailleurs un peu, c'est la suite de cette remontée dans le passé jusqu'à l'origine même du globe, avant qu'il ne soit solide. Vous voyez que ce qui est amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais c'est intéressant, c'est que ce rêve procède de manière anti-chronologique, hein, de manière régressive. Et cela montre qu'on est justement dans ce modèle géologique où plus on avance, plus on descend, plus on descend, plus on remonte dans le temps. Un modèle géologique où ce qui est le plus certain, c'est le plus proche de nous, donc le plus récent. oublier que le but de Jules Verne est bien de nous montrer quelque chose qui est d'ordre historique, plus que d'ordre spatial. Puisque l'insertion du rêve d'Axel dans le roman permet de remonter historiquement au-delà de ce qui est observable dans le globe, sous forme matérielle. Puisqu'il finit par observer la nébuleuse, hein, le grand nuage de gaz brûlant qui a donné naissance à la Terre. Il finit même par s'identifier à cette nébuleuse, hein, comme s'il était devenu identique à l'ensemble de l'univers. Voilà, donc modèle géologique de résurrection du passé. On voit que ce modèle prend la forme d'un voyage moins géographique qu'historique, et également moins scientifique qu'intime. Au sens où, non pas au sens où ça nous donne accès à l'intimité d'Axel, mais au sens où c'est sous la forme d'une rêverie intime que cette histoire du globe est résumée. Au sens où les traces historiques doivent être intériorisées dans une mémoire. La descente dans le monde souterrain chez Verne est affaire de constatations empiriques, d'une part, de constatations empiriques imaginaires qui n'ont pas beaucoup de poids, mais aussi de remémoration du passé, de descente dans ce qui serait en quelque sorte les souvenirs du globe terrestre. D'où la nécessité de les faire revivre. En particulier, je termine ce passage géologique là-dessus, la descente aboutit à cette grande caverne. Cette caverne qui semble en un certain sens centrale, même si en fait elle n'est pas du tout centrale, puisque Lidenbrock et Axel n'ont fait que descendre très peu profondément dans la Terre. Cette caverne centrale, ou cette caverne en tout cas gigantesque à laquelle ils arrivent, cette caverne est moins un fossile qu'un souvenir. En effet, un fossile, c'est mort, c'est inerte. C'est ce que voient Lidenbrock et Axel sur les parois, hein, les morceaux d'animaux ou de végétaux qui sont imprimés dans les parois lors de leur descente. Mais au bout de cette descente, il y a cette caverne, et cette caverne n'est pas seulement un fossile, c'est un fossile vivant. C'est-à-dire un oxymore, hein, une contradiction dans les termes. Si, par définition, c'est mort. Ce qui est assez surprenant dans le roman, c'est qu'on finit presque par croire que c'est vraisemblable, que la notion, disons, est imaginable, justement parce que nous sommes guidés par l'idée de fossile, l'idée que sous terre, il y a quelque chose qui est une trace d'un monde ancien. Cette caverne, c'est pas seulement des fragments d'animaux anciens morts, c'est un écosystème passé qui subsiste dans le monde présent et qui n'est pas présenté par Verne comme un monde passé, qui n'est pas présenté comme un monde présent, mais qui est présenté comme un monde passé. Alors qu'après tout, on est dans un monde présent, hein, au moment où Axel et Lidenbrock y pénètrent. Cette caverne est une sorte de de souvenir, de concrétisation de ce que c'était que le monde passé, qui reste intériorisé dans le globe terrestre. Et ça, c'est le prolongement logique, ou plutôt imaginaire, de ce paradigme géologique. Autre paradigme, c'est le paradigme archéologique, sur lequel je vais peut-être passer un peu plus vite. J'en ai parlé en séminaire à propos de Balzac, et j'avais dit que peut-être on pourrait faire un lien avec Hugo. Et c'est même peut-être plus légitime à propos de Hugo, chez qui les métaphores archéologiques et géologiques se mélangent. Notamment dans la grande description des égouts de Paris, dans Les Misérables. En effet, sous Paris, comme dit Hugo, il y a Lutèce. Lutèce, c'est l'ancien nom de Paris à l'époque romaine. Et Hugo fait remonter ce mot à l'idée de boue. À l'idée que Lutèce, c'est la ville de boue. Donc sous la ville lumière Paris, il y a la ville de boue. La ville marécageuse. Cette ville de boue est particulièrement bien représentée, bien sûr, par les égouts. Il raconte notamment, dans une grande digression sur les égouts, comment il y a eu une visite d'urbanisme officielle qui a été faite sous Napoléon, pour essayer de remettre de l'ordre, en quelque sorte, dans les égouts, pour essayer notamment de les cartographier. Donc Hugo aussi raconte une sorte d'exploration souterraine, d'expédition scientifique, de cartographe, qui peut ressembler un peu à ce voyage extraordinaire de Verne. Donc cette expédition de reconnaissance est menée par Brunsau. Alors je vais vous lire ce texte, ce n'est pas celui-ci, c'est celui-là. Donc le deuxième sur la page 2. Donc dans cette visite, on crut reconnaître ça et là, notamment sous le palais de justice, des alvéoles d'anciens cachots pratiqués dans l'égout même. Partout, la vase, c'est-à-dire la boue, que les égoutiers en étaient venus à manier intrépidement, abondait en objets précieux, bijoux d'or et d'argent, pierreries, monnaie. Un géant qui eût filtré ce cloaque eût eu dans son tamis la richesse des siècles. Alors je m'arrête un petit moment ici. Vous voyez là le modèle archéologique par excellence. Une expédition scientifique qui creuse, qui s'enfonce et qui trouve dans ce souterrain notamment des monnaies anciennes. Vous savez que les monnaies anciennes sont très importantes pour la datation des ruines et pour des informations historiques, notamment puisqu'elles contiennent les millésimes de leur fabrication. Donc la monnaie ancienne, c'est typiquement l'objet archéologique. Je reprends. On va avoir un autre objet archéologique. La rencontre la plus surprenante fut à l'entrée du grand égout. Cette entrée avait été autrefois fermée par une grille dont il ne restait plus que les gonds. À l'un de ces gonds pendait une sorte de loque informe et souillée, qui, sans doute arrêtée là au passage, y flottait dans l'ombre et achevait de s'y déchiqueter. Ce qu'on avait sous les yeux était un morceau du linceul de Marat. Marat, dans sa jeunesse, avait eu des amours. De ces amours historiquement constatés. Avec une grande dame, il lui était resté ce drap de lit. Épave ou souvenir. À sa mort, comme c'était le seul linge un peu fin qu'il eut chez lui, on l'y avait enseveli. De vieilles femmes avaient emmailloté pour la tombe, dans ce linge où il y avait eu de la volupté, le tragique ami du peuple. Pour bien voir, pour d'abord peut-être préciser qui est Marat. Marat, c'est un des révolutionnaires les plus célèbres de la Révolution française de 1789-1793. C'est un des noms associés à la terreur. Et c'est un des plus radicaux des révolutionnaires. Notamment dans le roman 93 que Hugo consacre à la Révolution, en général on retient principalement quelques noms de cette période de la terreur, et c'est essentiellement Robespierre, Danton et Marat. En gros, les clichés associés à ces trois figures, c'est que Danton est le bon vivant, sympathique, mais corrompu, en oubliant un peu qu'il a coupé beaucoup de têtes, lui aussi. Robespierre est l'idéologue dangereux, pré-bolchévique. Donc c'est l'idéologue dangereux, incorruptible, mais effrayant par la même. Et Marat, c'est le dénonciateur assez infâme et extrémiste. Je pense que ça correspond à peu près aux trois clichés. Je parle bien de clichés parce que ces clichés ont été établis pendant le 19e siècle les contre-révolutionnaires aussi. Et puis ensuite par la République à la fin du 19e siècle, qui avait un peu de mal à se réclamer de Robespierre, donc qui a plutôt valorisé Danton. Donc ça explique aussi pourquoi en France il y a des places Danton ou des rues Danton. Même à connaissance, à Paris par exemple, je crois qu'il n'y a pas de rue Robespierre. Mais il devait y avoir des rues Robespierre dans les villes communistes, dans les villes avec des mairies communistes. Que là, par contre, signaler Robespierre, c'était signaler un lien avec le communisme. Vous voyez. Bon. Je me suis un peu égaré dans mon propos. Je reviens à Marat. Marat, donc, c'est une des incarnations de la Révolution française. C'est simplement ça que je voulais dire, essentiellement. Mais c'est intéressant parce que, ici, vous voyez ce linge qu'on trouve, ce drap qu'on trouve dans les égouts. Il est à la fois une image de l'Ancien Régime, puisque c'est un drap d'une grande dame, c'est-à-dire, a priori, d'une noble, avec laquelle Marat a couché, ou a eu une relation amoureuse. Mais c'est aussi le suaire de Marat, donc c'est une image à la fois de la révolution, de la période révolutionnaire, et de la fin de la période révolutionnaire, avec la mort d'un des révolutionnaires. Donc ce linge contient en lui-même plusieurs étapes historiques cruciales de l'histoire de France. Donc c'est une sorte de mémoire, de souvenir de ce qu'est la France. Et c'est aussi un rappel pour le lecteur de ce sur quoi la ville est construite. Que la ville présente dans laquelle on évolue est bâtie au-dessus de la période révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle découle de cette période révolutionnaire, c'est ce qui est symboliquement marqué par là. Il est intéressant que ce linceul soit précisément à une porte du grand égout, c'est-à-dire une zone à l'intérieur des égouts. C'est-à-dire ça marque comme une sorte de seuil. Alors, je continue la lecture du texte. Bruneseau passa outre. On laissa cette guenille où elle était. On ne l'acheva pas. Fût-ce mépris ou respect, Marat méritait les deux. Et puis la destinée y était assez empreinte pour qu'on hésitât à y toucher. D'ailleurs, il faut laisser aux choses du sépulcre la place qu'elles choisissent. En somme, la relique était étrange. Une marquise y avait dormi. Marat y avait pourri. Elle avait traversé le Panthéon pour aboutir au ras de l'égout. Ce chiffon d'alcôve, dont Watteau eut jadis joyeusement dessiné tous les plis, avait fini par être digne du regard fixe de Dante. Ce passage avec ses antithèses nombreuses, très beau, évidemment, il oppose l'Ancien Régime et la Révolution, la vie et la mort, l'amour et la mort, la grandeur et la bassesse, à travers notamment deux références picturales et poétiques, un Watteau, le peintre de la galanterie, et puis de l'autre côté Dante, le poète infernal. Et vous voyez que le linge, qui est d'abord un vestige archéologique, devient progressivement une relique. Une relique donc sainte. Une relique qui est marqué du sceau du sacré, moins parce que Marat est un saint, que parce que le passé en lui-même, l'histoire, est quelque chose de sacré. Notamment tout ce qui touche à la Révolution, justement. Pour Hugo. Voilà, alors vous voyez comment là, il y a un modèle archéologique qui se met en place dans cette visite de l'égout. L'égout va nous permettre d'avoir une vision historique de la ville dans laquelle se déroule l'histoire en 1832. Et cette vision historique est une vision archéologique aussi parce qu'elle écrase toutes les époques les unes sur les autres. exactement comme quand vous faites une fouille archéologique. Toutes les époques se superposent et se brouillent et se mélangent. Si vous allez à Rome, vous voyez au même endroit plusieurs bâtiments qui coexistent. Un peu comme Freud décrit l'inconscient, comme une ville dont tous les états successifs existeraient en même temps. C'est quelque chose qui se trouve justement dans les fouilles archéologiques, cette superposition souvent assez confuse d'époques différentes. Alors, dans ce modèle des égouts, dans cette image des égouts, Hugo essaye manifestement de faire correspondre 1789 avec un changement qui se serait produit aussi à l'intérieur des égouts. Puisqu'il fait une sorte d'histoire des égouts. Et il insiste beaucoup sur le fait que les égouts ont changé, hein, les égouts se sont modernisés. Il y a des égouts modernes, bien organisés, et puis il y a des égouts, pour ainsi dire, gothiques. Des égouts qui remontent à un passé ancestral et qui sont tortueux, tordus, sinueux, labyrinthiques, noirs, effrayants, gothiques. C'est assez intéressant aussi parce que Jean Valjean, le héros des Misérables, va faire un périple à travers les égouts. En portant sur son dos Marius, inconscient et blessé. C'est donc un moment de mort et de renaissance symbolique, puisque je peux vous rassurer tout de suite, Jean Valjean s'en sort. Et cette mort et cette renaissance symbolique correspondent aussi, en un sens, à ce passage par l'histoire de France. Jean Valjean, notamment, va passer par les égouts anciens, les égouts pré-révolutionnaires, avant de ressortir, je dirais, de manière progressiste à la surface, c'est-à-dire en retraversant du côté du présent. Je pense que c'est un bon moment pour faire une petite pause dans ce modèle archéologique hugolien. Donc faisons une petite pause.